Xavier n'était pas qu'un blagueur et un tricheur aussi, il était aussi un homme de profonde réflexion. Je crois qu'on pourrait passer la parole peut-être à Mathieu sur le mystique, chercheur de sens.
Oui, merci. Bon, je m'appelle Mathieu Guillermin, je suis physicien de formation et maintenant je fais de la philosophie des sciences à l'Université catholique de Louvain. J'ai rencontré Xavier plus sur le tard que pas mal d'autres gens dans la salle. C'était en 2003. Mais du coup, ce qui m'a beaucoup frappé, peut-être ce qui m'a le plus frappé, au moins un des deux trucs qui m'ont le plus frappé, c'est ce côté mystique, intuitif, qui saisissait vraiment, il avait une intuition foudroyante et il saisissait des connexions là où personne n'en avait vu avant lui, et des analogies, il était très très fort pour ça. Et une des choses qu'il a utilisées, comment dire, ça a été un héritier de Teilhard de Chardin, on en a déjà parlé. Et il a vu comme Teilhard, peut-être tu peux mettre l'image suivante s'il te plaît, il a vu comme Teilhard cette progression par sauts successifs, progression en complexité, en conscience, qui va relier la matière primitive jusqu'à l'homme actuel et jusqu'au visage de la société. Et au départ, en fait, on m'avait demandé de parler de Xavier, le physicien, comme je suis physicien. Mais en fait, les travaux en physique eux-mêmes de Xavier, j'ai toujours eu beaucoup de peine à rentrer dedans. Et c'est pas forcément ça qui est le plus intéressant de ce point de vue, mais c'est par contre les intuitions qu'il a eues. Et il a réussi à connecter une idée très centrale en physique, qui est la symétrie et la brisure de symétrie, avec les intuitions de Teilhard et ce qu'il en retirait. Et donc il a connecté ces idées de sauts successifs, il leur a donné un visage concret en s'appuyant sur la symétrie, et sur la notion surtout de brisure de symétrie. Alors, comme il le disait dans la vidéo qu'on vient de voir, en fait, on pourrait voir, quand vous avez deux alternatives, est-ce que je vous donne les cartes ou est-ce que je les garde pour moi? Si on n'a pas spécifié de critères, c'est symétrique, et on ne peut pas distinguer entre les deux. Et donc la brisure de symétrie, ça nous permet à un moment d'avoir un référent, on s'accorde sur un référent, et on dit, ok, on a une règle, on la partage, et donc, quand vous choisissez ça veut dire que vous le gardez, et non pas que je garde l'inverse, ou ainsi de suite. Donc on se fixe un référent, et ça permet de déterminer les deux alternatives qui auparavant étaient symétriques. Et en fait, Xavier a réinjecté ça dans la vision de l'évolution teilhardienne, en disant, mais au fur et à mesure de l'évolution, il y a des référents qui sont donnés, qui permettent de ne plus voir comme équivalent des alternatives qui auparavant étaient symétriques, et qui donc vont permettre aux êtres d'avoir de plus en plus de capacités à se déterminer différemment, à agir différemment, et donc d'enrichir les différentes choses qui peuvent se passer sur la scène de l'univers. Et alors, il y a les différents sauts, hein. Tout d'abord, une rupture peut-être entre être et ne pas être. Au sein de l'univers et pour l'univers lui-même, il n'est plus équivalent, à partir du moment où on a un référent sur ce que veut dire être, il n'est plus équivalent d'être ou de ne pas être. Deuxième idée, la rupture de symétrie au niveau du temps. Il ne devient plus équivalent d'aller vers le futur ou de retourner vers le passé. Et tout ça, quand on s'accorde dessus, ça nous permet d'être des particules élémentaires, puis d'être des particules élémentaires qui participent à des ensembles qui vont dans un sens d'évolution temporelle. Rupture de symétrie suivante, la rupture de symétrie entre le vivant et le non-vivant. Donc ça, c'est encore des nouveaux états. Non, je peux être composé de matière qui évolue dans un certain temps et qui est vivant, qui n'est pas mort. Et ce n'est pas la même chose d'être vivant et d'être mort. Et puis, le pas jusqu'où Teilhard va, qui fait entrer dans la noosphère, c'est le pas de dire « je suis pensant » ou alors « je ne suis pas pensant ». Et ce n'est plus symétrique, parce qu'on a le bon référent. Voilà. Et donc, ce pas de la réflexion, Xavier, encore avec ses intuitions vraiment foudroyantes, il dit si c'est le pas de la réflexion, et que ça nous a amené, toute l'histoire naturelle nous a amené jusqu'à l'homme pensant, alors par réflexion, on doit pouvoir reprojeter les différentes brisures de symétrie dans l'histoire culturelle. Et donc, il reproduisait, il repartait dans l'autre sens, en disant tout ce que j'ai acquis comme capacité à me déterminer dans l'histoire naturelle, dans l'histoire culturelle, je vais pouvoir me réappuyer là-dessus et relire ces différentes brisures de symétrie pour faire des choix, poser de nouvelles questions, ouvrir de nouveaux horizons de pensée. Et donc, en partant dans l'autre sens, si j'ai franchi le pas de la pensée, si je suis conscient de moi-même, je peux me poser la question de qu'est-ce qui me guide. Et alors, j'ai une nouvelle rupture de symétrie entre un pôle de désir subjectif, où je ferai seulement ce que j'ai envie, et un pôle d'autorité suprême. On commence à pouvoir penser la relation entre l'homme et Dieu, ou l'homme et un pôle de éthique transcendant. En reculant encore, si je fais partie de la vie, donc j'ai franchi le pas de la vie, que dois-je privilégier? Dois-je privilégier ma vie individuelle, Ou alors privilégier la communauté des vivants? C'est des questions que je peux me poser. À nouveau, brisure de symétrie. Si je constate une évolution temporelle, donc je recule encore, si donc j'ai fait ce saut de l'évolution temporelle, est-ce que tout est déjà déterminé au départ? Tout se déroule-t-il causalement? Ou alors y a-t-il une certaine finalité? Y a-t-il du libre arbitre? Encore des questions qu'on peut se poser. Et en reprenant le premier saut de l'être, si je suis, alors, si j'existe, je peux me poser la question, est-ce que mon existence a un sens? Et c'est un choix à faire, et Xavier l'avait fait, c'est un acte de foi fondateur qui justement l'a probablement fait rentrer dans cette démarche mystique de chercheur de sens, qui était de dire oui, peut-être il y a de la causalité, mais moi je crois et je fais le choix de croire que l'univers a un sens, qu'il va vers quelque chose. Et je vous remercie de votre attention.
Après le mystique et le physicien, le biologiste.
Alors mes chers amis du groupe, Bénin ne m'ont pas rendu la vie facile parce que c'est un des domaines techniques que Xavier a beaucoup investigué et dans lequel il a essayé de voir comment on peut appliquer la TGS. Donc je vais devoir vous parler de choses assez techniques du style, le code génétique et toute la recherche que Xavier a fait dans ce domaine-là, qui est un domaine que nous avons beaucoup étudié avec le groupe Bénin. Dans sa recherche de l'application de la TGS, Xavier a beaucoup travaillé donc au niveau de la biosphère, dans les différents accordages. C'est celui qui vient avant l'accordage qui permet d'avoir des êtres pensants. Nous sommes donc ici au niveau des êtres vivants. Et sa recherche a également, en ce qui concerne tout ce qui est biosphère, était une quête pour confirmer cette intuition qu'il voulait démontrer d'un ajustage ontologique entre la réalité physique et la virtualité mathématique, si je puis dire. Et cet ajustage ontologique qu'il essayait de démontrer et dont je vais vous parler rapidement était, d'après lui, attesté dès le départ par un autre couplage qu'il appelait couplage nominal entre d'une part le quantum d'action, qui est la plus petite action physique que l'on peut avoir dans notre univers, et la constante de Planck, qui est une constante mathématique. Vous allez voir des schémas assez compliqués. Le but n'est absolument pas de les détailler ici, mais aussi de vous montrer quelle était l'imagination, la créativité, le sérieux de Xavier pour essayer de démontrer en quoi sa TGS pouvait être appliquée au niveau de la biologie. Alors, je dois quand même vous faire un tout petit peu de théorie pour que vous compreniez un tout petit peu de quoi il s'agit. Voilà. En fait, dans la production des protéines qui sont vraiment les éléments de la vie, il y a deux phases. Il y a une première phase qui est une transcription du code génétique qui se trouve dans le gène, dans l'ADN, et qui est transcrit vers ce qu'on appelle l'ARN messager. C'est la première phase qui se trouve au-dessus. Et la deuxième phase est une phase de traduction où l'ARN messager va dicter l'enchaînement des acides aminés qui sont portés par un autre ARN qui est l'ARN de transfert. Et ces différents acides aminés vont s'enchaîner pour former la protéine. Et évidemment, l'ordre dans lequel ces différents acides aminés sont enchaînés est dicté par le code génétique qui se trouve dans l'ADN. Et donc, Xavier s'est demandé